Chapitre 7. Prudence de Sheldon. Valentin trouva l'appartement tout à fait à sa convenance. Il était situé à mi-chemin entre la salle de lecture du British Museum et la demeure de sa bien-aimée, à mi-chemin entre le travail et le plaisir. Le prix en était très modéré, les chambres propres et bien aérées. Il l'arrêta immédiatement pour la fin de la semaine suivante. Puis, cette affaire réglée, il reprit le chemin de son logis, résolu à rompre avec le capitaine, poliment mais irrévocablement. Une surprise, une très agréable surprise, l'attendait à Chelsea. Il trouva le salon encombré des objets qui appartenaient en propre au capitaine et celui-ci à genoux devant une malle en train d'emballer. « Vous arrivez juste à temps pour me donner un coup de main, Valentin, » dit-il de son air le plus aimable. « Je commence à m'apercevoir de mon âge lorsque je mets mes pauvres vieux os dans des attitudes anormales. Je présume que faire une malle ou deux ne sera qu'un jeu d'enfant pour vous. « Je ferai une demi-douzaine de malles si cela vous est agréable, » répliqua Valentin. « Mais que signifie ce brusque départ? Je ne savais pas que vous dussiez quitter la ville. Je ne le savais pas moi-même lorsque nous avons déjeuné ensemble. J'ai reçu ce matin l'offre inattendue d'une situation très convenable à l'étranger, une sorte d'agence qui vaudra beaucoup mieux que les affaires incertaines dont je me suis occupé ces derniers temps. Quelle sorte d'agence et où se trouve-t-elle? Autant que je puis m'en rendre compte pour le moment, il s'agirait de quelque chose dans le genre d'une navigation à vapeur. Mon quartier général sera à Rouen. Rouen, mais c'est une vieille ville assez vivante et aussi pittoresque qu'un roman de Walter Scott, pourvu qu'on ne l'ait pas modernisé depuis le temps. Je suis très aise d'apprendre que vous avez trouvé pour vous un lit convenable. Je ne suis pas fâché de quitter l'Angleterre, Valentin, répondit le capitaine d'un ton assez piteux. Pourquoi donc? Parce que le moment est arrivé où nous devons nous séparer. Notre association commence à être désavantageuse pour vous, Valentin. Nous avons eu ensemble bien des hauts et des bas, mais elle n'a pas été trop désagréable, tout bien considéré. Mais maintenant que vous voilà lancé dans une carrière littéraire, engagé avec cette jeune personne, la main dans la main avec Philip Sheldon, je pense qu'il est temps que je me retire. Vous n'avez pas besoin de moi, et tôt ou tard, je pourrai me trouver en travers de votre chemin. » Le capitaine dit tout cela d'un ton tout à fait touchant, si bien que le cœur de Valentin eut comme un remords en se rappelant à quel point il avait désiré s'en débarrasser. Et voilà que le pauvre homme offrait de lui-même de se retirer. Valentin étendit la main pour saisir celle de son vieux camarade. « J'espère que vous réussirez quelque bonne affaire, » dit-il chaleureusement. L'adjectif « bonne » avait été par lui rapidement substitué à l'adjectif « honnête » qui avait effleuré ses lèvres. Il était à ce moment trop bien disposé envers le monde entier pour ne pas s'apitoyer sincèrement sur le sort de ce vieillard aux cheveux blancs qui s'était si longtemps nourri du pain des coquins. « Allons, » s'écria-t-il joyeusement, « je me charge de tout emballer, capitaine, et nous irons ensuite faire ensemble notre dernier dîner, boire une dernière bouteille de champagne, à mes frais, où vous voudrez. »« Dînons chez Blanchard, » répliqua Horatio. « Il y a chez lui une encoignure de fenêtre que j'aime beaucoup. On voit de là les badauds de Regent Street. C'est amusant, cela me rappelle un peu la Maison d'Or. Nous boirons à la santé de Charlotte, Valentin, dans de grands verres. C'est une charmante personne. » « Je voudrais seulement, par affection pour vous, que ce fût une héritière. » Les yeux des deux hommes se rencontrèrent au moment où le capitaine disait ces mots. Et dans la vieille pupille grise du gentleman, Valentin entrevit une sorte d'étincelle qui produisit sur lui un très désagréable effet. « Quelle mauvaise action rumine-t-il en ce moment ?» se demanda-t-il. « Je connais cette expression dans les yeux de mon Horatio, et c'est toujours un mauvais signe. » George fit son apparition à la pelouse 5 minutes après que son frère venait d'arriver de la City. Il entra avec son sans-gêne habituel, sachant très bien qu'il était plutôt supporté qu'aimé par les deux dames et seulement toléré comme une dure nécessité par le maître de la maison. « Je viens manger une côtelette avec vous, Philippe, dit-il, afin que nous puissions causer tranquillement après dîner. Il n'y a pas moyen de vous adresser 6 mots de suite dans la City, au milieu des interruptions de vos commis. On parla peu pendant le dîner. Charlotte et son beau-père demeurèrent pensifs. Diana passa son temps à écouter les niaiseries que lui débitait sotto voce Mrs. Sheldon, à l'égard de laquelle la jeune fille se montrait admirablement patiente. Son indulgence et sa gentillesse envers Georgie lui coûtaient quelques efforts. Elle espérait par là se dégager de sa tristesse, des amers sentiments qui assaillaient son cœur, condamné à être témoin du bonheur des deux amants. George se dévoua particulièrement à un certain vin de sherry sec qu'il affectionnait. C'était un homme qui eut dîné et se fut délecté à la table de Judas Iscariote lui-même, tout en le tenant pour un traître. « Voilà un faisan plus que parfait, Philippe, dit-il, après avoir fait tomber sur son assiette 2 cuisses et 1 aile. « Non, Georgie, pas de macaroni, je vous remercie. Je ne me soucie pas de ces colifichets après un repas sérieux. À propos, Philippe, Hawkehurst a-t-il dîné avec vous ces jours-ci ? » Charlotte devint aussi rouge que les baies de houbéni dont les candélabres étaient ornés. C'était la veille de Noël, et ses belles mains avaient semé par la chambre des guirlandes, des touffes, des bouquets, des branches de gui, de houx, de lierre. « Il dîne avec nous demain, répliqua l'agent de change. « Vous viendrez également, je suppose, comme à l'ordinaire, Georges. »« Je viendrai avec grand plaisir, si cela ne vous dérange pas. » Georgie murmura quelques protestations banales. « Certainement, nous sommes toujours très aises de vous voir, » dit Philippe de l'air le plus encourageant. « Maintenant, si vous avez à me parler d'affaires, le plus tôt sera le mieux. Ces demoiselles et vous n'avez pas besoin de rester au dessert, Georgie. Des amandes et des raisins secs n'ont rien de très tentant, et comme vous ne buvez pas de vin, vous n'avez rien de mieux à faire que de passer au salon. Georges et moi irons vous y rejoindre pour le thé. » Les dames se retirèrent, enchantées de retourner à leur laine de Berlin et à leur piano. Diana reprit son ouvrage avec la sainte patience qu'elle apportait dans l'accomplissement de ses devoirs. Charlotte s'assit devant le piano, où elle se mit à jouer de petits bouts de valse sur un mode lent, avec des liaisons dominantes de notes basses qui auraient écorché les oreilles d'un musicien. Elle se demandait si Valentin viendrait ce soir-là, qui était la veille de Noël, et qui, dans sa pensée, devait être pour son amant une occasion de lui adresser ses vœux. C'était la première veille de Noël depuis qu'ils étaient fiancés. Ses souvenirs se rapportèrent au même jour de l'année précédente, et elle se rappela avoir été assise dans cette même pièce, s'évertuant sur ce même piano, sans se douter qu'il y eût au monde une créature nommée Valentin. Elle se souvint même, chose étrange, que dans cette ignorance, elle s'était trouvée passablement heureuse. « Maintenant, Georges, » dit Sheldon, après que les deux frères eurent empli leurs verres et placé leurs chaises aux 2 points opposés de la cheminée. « Quelle est l'affaire dont vous avez à me parler ?»« C'est une affaire d'une importance considérable, dans laquelle vous n'êtes intéressé que d'une manière indirecte. L'acteur principal, c'est votre belle-fille, Miss Halliday. »« En vérité, oui, vous savez que vous avez toujours ri de mon goût pour la chasse aux héritiers. » Cela ne m'a pas empêché d'aller de l'avant, sans jamais perdre espoir, partant sur une nouvelle piste quand l'ancienne me faisait défaut. Et vous avez enfin rencontré une bonne chance, Georges. Je crois en avoir rencontré une assez bonne, et vous avouerez, je pense, qu'il est bien extraordinaire qu'elle tourne à votre profit. C'est-à-dire à celui de ma belle-fille, remarqua Sheldon, sans aucune apparence d'étonnement. « Précisément, dit Georges, quelque peu déconcerté par la froideur de son frère. J'ai découvert récemment que Miss Halliday a des droits sur une certaine somme d'argent, et je me fais fort de la mettre en possession de cet argent, à une condition. Et cette condition est qu'elle signera un acte par lequel elle s'engagera à m'abandonner la moitié de la somme qu'elle pourra recouvrer par mon entremise. » Et si elle la recouvrait sans votre entremise ? Oh, quant à cela, je l'en défie, elle ne sait même pas qu'elle a le moindre droit à faire valoir. Ne soyez pas trop sûr de cela. Mais même en admettant qu'elle ne sache rien, pensez-vous que ses amis soient aussi ignorants qu'elle ? Pensez-vous que je sois un homme d'affaires assez niais pour être resté jusqu'à présent sans savoir que ma belle-fille est la plus proche parente du révérend John Haygarth, mort ab intestat à Tilford Haven, dans le comté de Kent, il y a un an environ. Ce fut comme une volée de mitraille qui renversa presque George, mais après ce premier mouvement de stupéfaction, il poussa un soupir, ou plutôt un gémissement de résignation. Pardieu, cela ne doit pas me surprendre. Vous connaissant, il faut que j'aie été fou allié pour ne pas m'attendre à quelque travail sous-main de votre part. Qu'entendez-vous par là? Les mêmes journaux qui ont été à votre disposition ne l'étaient-ils pas à la mienne? N'avais-je pas plus de facilité que vous pour établir la parenté directe de ma belle-fille avec le père de John Haygarth? Comment donc avez-vous découvert que Miss Halliday est une descendante de Matthew Haygarth? Demanda George très doucement. George était complètement accablé. Il commençait à sentir que son frère aurait la haute main sur lui dans cette affaire comme dans toutes les autres affaires de sa vie. « Cela est mon secret, » répliqua Philippe avec une douce tranquillité. « Vous avez gardé vos secrets, je garderai les miens. Votre politique a été une politique de défiance, la mienne sera de même. Lorsque vous avez débuté dans cette affaire, je vous ai offert de m'en occuper avec vous, d'avancer tout l'argent dont vous pourriez avoir besoin. J'ai parlé en ami, vous avez repoussé mon offre. Vous avez préféré voler de vos propres ailes. Vous avez très bien agi pour ce qui vous concerne, sans aucun doute, mais vous n'êtes pas encore tout à fait assez fort pour m'empêcher de voir clair dans une circonstance qui intéresse l'un des membres de ma propre famille. « Oui, » dit George avec un soupir, « vous tenez la carte gagnante, Miss Halliday et vos traces d'atouts. Soyez certain que je saurai tenir mes forces en réserve et jouer mes atouts quand il le faudra. « Et que vous saurez comment prendre mon roi, » murmura George entre ses dents. « Voyons, nous pouvons aussi bien discuter cette affaire amicalement. Qu'avez-vous l'intention de me proposer ?»« J'ai en ma possession toutes les pièces nécessaires pour soutenir la réclamation, » répondit George, « pièces sans lesquelles Miss Halliday ne pourrait pas plus prétendre à l'héritage Haygarth qu'elle ne pourrait prétendre être née aux îles Sandwich. Je suis en mesure d'intenter l'action de revendication contre la couronne. » Mais je ne le ferai que sous condition que j'aurai droit à la moitié de la somme recouvrée. Une demande très modérée, ma parole. Je pourrai m'entendre directement avec Miss Halliday. C'est très probable, et à mon tour, je crois que je pourrai facilement faire annuler votre convention comme illégale. J'en doute, j'ai là un projet de traité qui défierait toute objection devant une cour de justice. Et sur ce, George lut à haute voix un projet de transaction dûment rédigé. C'était un acte passé entre Charlotte Halliday, fille non mariée, de Bayswater, d'une part, et George Sheldon, avocat, de Gray's Inn, d'autre part. Par cet acte, il était fait don au dit George Sheldon d'une moitié de quelque propriété que ce fût, non actuellement en la possession ou la jouissance de la dite Miss Halliday, qui pourrait lui advenir par l'intervention du susnommé George Sheldon. Et dites-moi, je vous prie, qui fera les déboursés nécessaires pour soutenir la réclamation ? Demanda l'agent de change. Je ne me sens pas du tout disposé à risquer mon argent à un jeu aussi hasardeux. Qui nous répond que d'autres descendants de Matthew Haygarth, jouant à l'heure qu'il est à cache-cache dans quelque pays du monde, ne fonderont pas sur nous alors que nous aurons perdu une petite fortune en frais de procédure. « Je ne vous demande pas de risquer votre argent, » répliqua George avec une dignité chagrine. « J'ai des amis qui me soutiendront lorsqu'ils verront ce traité signé. » « Très bien, alors, tout ce que vous avez de mieux à faire dans ce cas est de réduire votre demande de moitié à un cinquième, et je m'arrangerai pour faire signer cet acte par Miss Halliday avant la fin de cette semaine. Un cinquième ? Oui, mon cher, 20 000 livres paieront largement la peine que vous avez prise. Je ne puis consentir à ce que Miss Halliday cède plus. J'irai trouver Miss Halliday elle-même, s'écria l'avocat indigné. Oh non, vous devez connaître le danger qu'il y a à lutter contre moi dans cette affaire. Cet acte est parfaitement bien établi, néanmoins, il n'y a pas d'acte plus facile à faire annuler. Il suffira de savoir s'y prendre. « Allez, allez, je vous en prie, jouez votre jeu, et je ferai anéantir votre traité aussi simplement que je briserai ce verre. » Sheldon avait en lui, au moment où il dit cela, quelque chose d'implacable. « Il est bien dur de vous trouver contre moi, après tout le mal que je me suis donné, après avoir travaillé comme un forçat dans l'intérêt de votre belle-fille. Il est de mon devoir de mettre les intérêts de ma belle-fille au-dessus de tout. Oui, au-dessus de l'affection qu'on doit à un frère. Il est bien dur que vous vous trouviez contre moi. Si vous considérez les circonstances difficiles dans lesquelles je me trouvais et tout ce que j'ai fait en ne prenant conseil que de moi, vous prendrez un cinquième ou rien, dit Sheldon, en contractant ses sourcils, ce qui donna à sa physionomie une expression menaçante. Si je ne puis m'arranger avec vous, je m'occuperai de l'affaire moi-même et la suivrai jusqu'au bout tout seul. Je vous en défie. Vous feriez mieux de ne pas me défier. Combien donc comptez-vous garder pour vous-même de la fortune de Miss Halliday ? Demanda l'avocat exaspéré. « Cela me regarde, » répondit tranquillement Philippe. « Maintenant, je crois que nous ferions mieux de passer au salon pour prendre le thé. »« Oh, à propos, » ajouta-t-il avec un gracieux abandon, « comme Miss Halliday est en affaire moins qu'un enfant, il vaut mieux la traiter en enfant. Je lui dirai qu'elle a des droits sur une certaine somme d'argent, mais je ne lui dirai pas la somme. Son désappointement sera moins grand en cas d'échec si elle a eu des espérances plus modestes. « Vous êtes toujours prévoyant, » dit Georges avec un sourire sardonique. « Puis-je vous demander comment vous vous êtes mis dans la tête de jouer le rôle de père bienveillant dans l'amourette de Hawkehurst et de Miss Halliday ?»« Que m'importe que ma belle-fille épouse celui-ci ou celui-là ?» répondit froidement Philippe. « Je désire certainement que cela tourne bien, mais je n'aurai pas la responsabilité de son choix. Si ce jeune homme lui convient, qu'elle l'épouse ?» D'autant mieux qu'il vous convient admirablement à vous-même. Je commence à comprendre votre jeu, Philippe. Vous pouvez me comprendre ou ne pas me comprendre, comme il vous plaira. Maintenant, si nous allions prendre le thé.